Debout là-dedans, c'est le moment de monter le son, d'allumer une clope, de prendre une bière, d'enfermer les gamins dans le placard, d'envoyer la femme ou le mari aller faire les courses, de décrocher le téléphone, de fermer la maison. C'est parti pour l'orgasme radiophonique mensuel avec le Capitaine Potager. Allez, générique! Bonjour, vous êtes bien sur Radio Saint-Ave, je m'appelle Guillaume et vous êtes avec moi pour l'émission Capitaine Potager, l'émission enragée. Nous allons nous retrouver chaque mois pour découvrir ou redécouvrir le potager et tenter de devenir des héros de la bêche, des rois du compost, des seigneurs de la terre et de l'humus. Et toujours avec mon cher public. Merci, merci de suivre l'émission du potager avec ses conseils, ses reportages et ses coups de gueule. Alors je vais vous demander un petit coup de main. Mes parents, mes très chers parents, ont écouté l'émission et ils me disent à chaque fois
« Oh, ton émission est très bien, mais tu pourrais dire moins de gros mots. S'il y avait moins de vulgarité, ce serait quand même mieux. C'est dommage, tu passes sur les ondes. Il faudrait faire attention, il y a peut-être des enfants qui écoutent. »
Ah, là je vous explique, je refaisais ma mère. Bon, c'est vrai, j'ai tendance à être un poil de cul grossier, mais franchement, ça fait partie du concept. C'est le côté « je fais du potager, mais avec l'esprit rock'n'roll ». C'est l'esprit de la carotte rebelle qui s'exprime. Ça fait partie du personnage qu'est votre fils. On ne peut pas me changer. C'est comme si on disait à la droite d'aider les pauvres. Ils aimeraient bien, mais c'est pas possible. Alors je vous demande, chers auditeurs, de sauver le Capitaine Potager. Gardarem lo Capitaine Potager. D'être pour la défense et la protection de la vulgarité, du non-conformisme du Capitaine Potager. Vous pouvez envoyer tout votre soutien sur le site internet de Radio Saint-Afrique, dans la rubrique Notre Mensuel et évidemment Capitaine Potager. J'attends votre soutien, ou pas. Bon, tu fais comme tu veux. Allez, sommaire de l'émission. Pour la mise en bouche, je vous propose d'aller à la rencontre de Christine Tellen, qui fait partie des Faucheurs Volontaires. Un reportage fait conjointement avec l'émission Filotage. Puis nous retrouverons le Capitaine Potager pour ses nouvelles aventures. Nous terminerons comme d'habitude avec les petits travaux du père Guillaume. On a téléphoné la semaine dernière à Christine Tellen, qui nous parle du combat des Faucheurs Volontaires. On écoute.
Allô ?
Allô, bonjour, c'est Lucille Peyre.
Oui, d'accord. Oui.
Bonjour, c'est Guillaume.
Oui, bonjour.
Voilà, donc pour l'interview. Bon, alors je commence peut-être en vous demandant déjà de vous présenter pour que les auditeurs sachent un petit peu qui vous êtes.
D'accord.
Rapidement.
Bonjour à tous. Donc je suis Christine Tellen. J'habite ici sur le Larzac, sur la commune de Millau. Et je fais partie du mouvement désobéissance civique qui s'appelle les Faucheurs Volontaires. Donc c'est un mouvement qui consiste à essayer qu'il n'y ait pas de culture d'OGM en plein champ.
D'accord.
Donc je suis aussi agricultrice.
D'accord, merci. Et est-ce que vous pouvez peut-être définir la désobéissance civique ? Qu'est-ce que c'est désobéir, mais civiquement ?
Alors, la désobéissance civique, c'est un acte citoyen. Donc, comme ça, on le voit dans le mot. Hein. Donc, ce sont des citoyens qui, à un moment de leur vie, estiment que des lois ou des arrêtés ou des mesures sont prises qui ne vont pas dans le sens du bien commun, qui ne vont pas dans le sens d'une société qui développerait plus de bien-être pour les citoyens et qui décide donc de le manifester de manière concrète par des actions, quoi. Qui ne se contente pas de le dire ou de l'écrire, mais qui passe aussi à l'acte.
D'accord. Alors, au sujet des OGM, je vais peut-être laisser parler Guillaume.
Oui, d'accord.
Voilà, moi je voulais savoir, par exemple, donc là c'est plus au niveau agricole, sur ces questions-là, parce que c'est une émission sur le potager, donc de savoir s'il y a des nouvelles variétés d'OGM qui sont arrivées en France ou pas ces derniers temps.
Normalement, non. Tout ça doit être rendu public. La seule variété d'OGM que nous risquons d'avoir cette année en France, et pour laquelle nous agissons fortement depuis le mois de novembre, c'est le maïs Monsanto 810.
Alors, qu'est-ce que
c'est la seule variété qui serait amenée à être cultivée en France, s'il y a une autorisation.
D'accord. Et quelle est la spécificité un peu de ce maïs
Ce maïs, c'est un maïs transgénique. qui contient à la fois un pesticide, un herbicide, si vous voulez, enfin qui résiste, par contre, pardon, qui résiste au désherbant et qui contient un insecticide.
D'accord.
Voilà, donc c'est surtout pour ça que nous contestons, parce qu'il contient un insecticide BT, qui, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas un insecticide biologique dans cette formule qui est appliquée sur ces maïs, et qui est dangereux pour tous les insectes, et notamment les abeilles et tous les insectes pollinisateurs.
D'accord. Et est-ce que, je voulais savoir, est-ce qu'en France, il y a un risque, par exemple, moi je fais mon potager, chaque année je récupère mes graines, est-ce que j'ai un risque de trouver des traces d'OGM sur, par exemple, des variétés de maïs, tomates ou autres légumes ?
Non, normalement non. Non, parce que déjà, que pour que dans votre petit potager, vous puissiez trouver des risques de maïs contaminés, il faudrait que vous ayez près de chez vous, mais alors, bon, ça pourrait arriver si vous faites du maïs près d'un champ qui serait planté cette année en plantes transgéniques. Si le champ est à une distance proche de votre jardin, et si les maïs pollinisent en même temps, vous pourriez avoir, dans votre variété de maïs dans votre jardin, vous pourriez avoir du maïs contaminé. Mais c'est le seul légume que vous pourriez avoir de contaminé, en fait, la seule céréale.
Bah, pour l'instant, en France, parce que dans le monde, je ne sais pas si il y a peut-être d'autres variétés.
Ah, il y a d'autres variétés ailleurs, c'est sûr. Mais en France, pour le moment, c'est la seule plante qui pourrait être autorisée. Actuellement, elle l'est, puisque c'est justement pour ça que nous agissons fortement ces jours-ci. Donc, depuis le mois de décembre, date à laquelle l'arrêté qui avait été pris par la France avait été retoqué, donc le maïs est autorisé en France pour le moment, ce maïs Monsanto 810, et donc c'est pour ça que fortement nous agissons depuis cette période, pour qu'ils reprennent un arrêté pour interdire cette culture cette année.
D'accord.
Et nous sommes très inquiets, parce que là, vous voyez le temps comme il change, comme il commence à faire chaud, donc les semis de maïs vont arriver très 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 prochainement. Dernièrement, le ministre de l'Agriculture, encore la semaine dernière, a promis qu'ils allaient prendre un arrêté et qu'il n'y aurait pas de maïs Monsanto 810 cette année en France, mais pour le moment, on attend la concrétisation de cet arrêté. On n'a toujours rien de concret. Donc aujourd'hui, les gens qui planteraient du Monsanto 810 auraient le droit de le faire, quoi, là, aujourd'hui, quoi. Hein.
D'accord. Ouais, donc le combat des faucheurs volontaires est loin d'être fini encore.
Ah bah, il est loin d'être fini, parce que le maïs, bon, le Monsanto 810, c'est une variété. Mais on sait qu'il y a des dizaines de variétés qui attendent à la porte. Nous agissons aussi pas rien que sur ce qui est planté en France. Nous essayons d'agir aussi sur les importations. Alors là, c'est un problème énorme, parce qu'il y a des millions de tonnes de soja transgénique qui rentrent chaque année en France, quoi. Hein. Donc le combat des faucheurs, il est bien loin d'être terminé, d'autant plus que Villemorin, que vous connaissez, qui est une boîte qui fait énormément de semences potagères et tout ça, annonce, elle, des variétés de maïs transgénique sous son étiquette pour 2014. Alors vous voyez que le combat est loin d'être terminé. Et nous, ce qu'on conteste surtout dans ces plantes-là, c'est que ce sont des plantes insecticides, quoi, la plupart. Donc c'est pas un progrès, c'est-à-dire qu'elles détruisent tous les insectes qui les approchent. Donc franchement, les apiculteurs aussi cette année montent fortement au créneau, parce qu'ils risquent de voir disparaître complètement leur métier si on autorise ce type de plantes, quoi.
Ouais, ça détruit aussi bien les bons insectes comme les mauvais, quoi.
Ah ben oui, là il faut pas le tri, hein, ça détruit tout. Hein. Et donc il y a des régions déjà comme au Canada ou aux États-Unis où ils ont énormément de problèmes parce qu'ils n'ont plus d'insectes pollinisateurs. Et donc, ils voient que toutes les zones où il y a des fruitiers, des vergers et compagnie, ne sont plus pollinisées et ils ont des rendements qui diminuent, voire énormes, de 50 à 60% dans les vergers parce que les arbres ne sont plus pollinisés. Ils en viennent même à un point de louer des ruches pour les installer près des vergers. Pas pour récolter le miel, parce que le miel pourrait être contaminé par le maïs, par les OGM, mais uniquement pour essayer de polliniser leurs arbres, quoi.
D'accord.
Et est-ce qu'il y a... on marche sur la tête, là.
Et est-ce qu'il y a un risque, on va dire, pour la santé, de mettre un peu dans les aliments des insecticides, parce que j'imagine qu'il doit quand même y avoir des traces quand on va acheter du maïs au supermarché.
C'est difficile de le dire, puisqu'il n'y a pas d'études qui sont faites là-dessus.
Donc c'est le grand mystère encore.
Eh bien c'est le grand mystère. Il n'y a pas d'études. Alors c'est vraiment le problème de tous les insecticides, pas rien que celui qui est dans le maïs transgénique. Hein. C'est que il y a très peu d'études qui sont faites, très peu d'impact sur la santé qui sont faits à partir des résidus des insecticides et pesticides.
Parce que l'OGM, ça fait combien de temps que ça arrivait à peu près en France ?
Alors en France, les premières luttes contre les OGM, elles ont eu lieu dans les années, vers, en 1999, ouais, à peu près, oui. Là, il y a eu les premiers, oui, dans les années, début des années 2000, il y a eu les premiers combats contre les OGM, quoi.
Et ce combat contre les OGM, il y a une orientation écologique pour protéger la nature, mais est-ce qu'il n'a pas aussi une orientation un peu économique pour protéger les agriculteurs,
hein? Eh ben, c'est-à-dire que oui, il y a écologique, et je dirais agricole, quoi. C'est une orientation, donc, pour avoir un type d'agriculture propre. Nous, je pense que la France, elle a tout intérêt à garder quand même une agriculture sans plantes transgéniques qu'elle peut garantir pour tout ce qui est label et agriculture de qualité. On essaye aussi de développer l'agriculture biologique, donc les deux choses ne vont pas ensemble. On ne peut pas à la fois favoriser une agriculture qui respecte l'environnement et qui respecte la nature et qui est bonne pour la santé à la fois animale et à la fois humaine, et à la fois continuer à pousser une agriculture complètement industrielle qui ne tient compte d'aucun élément, quoi, qui ne voit qu'un seul résultat, c'est le rapport financier, quoi, que ça peut rapporter, quoi.
Par lutte économique, j'entendais plutôt la lutte pour l'indépendance des agriculteurs qui sont un peu pris dans une...
Il y a ça aussi, bien sûr, ouais. Parce qu'il y a le problème des brevets. Toutes ces plantes-là, ce sont des plantes qui sont soumises à des brevets, qui sont des graines qui coûtent très, très, très cher. Et donc, on le voit dans des pays comme l'Inde et tout, où des petits paysans ont acheté notamment du riz ou du coton transgénique à des prix faramineux et n'ont pas eu les résultats, ils n'ont pas eu les récoltes qu'ils espéraient. Et ces personnes-là se sont endettées. Et on a vu chez les petits paysans indiens un drame énorme. Il y a plusieurs milliers de petits paysans indiens qui se sont suicidés parce qu'ils n'arrivaient pas à payer leurs dettes. Suite aux emprunts qu'ils avaient faits pour acheter leurs graines, quoi. Hein. Donc, évidemment, alors que dans ces pays-là, ils avaient tout ce qu'il fallait, quoi, en variété de riz, et qu'ils permettaient d'une année sur l'autre de reproduire leur riz d'une année sur l'autre. Et donc, quand ils rentrent dans ces logiques de brevets, ils ne peuvent plus. Chaque année, ils sont obligés de racheter les semences. Et s'ils n'ont pas la récolte qu'ils pensent avoir en mettant ces semences-là, pour eux, mais c'est fini, quoi. Mm-hmm. C'est fini. Donc pour ces gens-là, ils n'ont pas droit à l'erreur, quoi. Ils sont déjà tellement pauvres, ils sont déjà tellement fragiles que s'ils rentrent dans cette logique de brevet, ils sont perdus. Mais bon, je veux dire, c'est la même logique. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas avoir la logique de Monsanto et de toutes ces boîtes qui mettent des brevets. Elles en ont rien à faire, des paysans. Eux, ce qu'elles veulent, c'est l'agro-industrie. C'est avoir des fermes énormes gérées par des multinationales qui exploitent des ouvriers à des salaires très très bas et qui font, qui plantent chaque année leurs brevets, leurs plantes transgéniques et autres pour faire de l'agro-industrie. Ils ont que faire du monde paysan, hein. Ils ont que faire. Franchement, c'est pas du tout leur souci, quoi.
Et puis c'est une catastrophe et humaine et aussi bon écologique, on l'entend, mais ouais. C'est vrai que ça nuit aussi à la biodiversité parce que de faire des cultures sur plusieurs milliers d'hectares, j'imagine que ça doit être catastrophique.
De la même variété, c'est ça, c'est la catastrophe, c'est ça. C'est qu'autrefois en Inde, il y avait des milliers de variétés de riz, et quand on rentre dans cette logique de brevet, eh bien, on tombe sur 2-3 variétés. On est en train de perdre un patrimoine génétique colossal, quoi.
Et alors, quelle est la différence un peu avec alors, il y a la graine OGM où on met un intrant extérieur, mais c'est les variétés hybrides qu'on appelle les graines hybrides. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, il y a différentes variétés. Bon, les hybrides, on ne peut pas lutter contre tous les hybrides. Maintenant, ça fait des dizaines d'années qu'on fait des hybrides et il y en a qui ont amélioré, qui sont utilisés même en agriculture biologique. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, à la fois dans ce qu'ils appellent les hybrides, maintenant, ils rentrent les plantes mutées. Et nous, ce qu'on conteste là-dedans, c'est qu'à la fois... Enfin, on estime, nous, dans le cadre du mouvement des faucheurs volontaires, et que c'est à la fois, c'est une plante transgénique camouflée, si vous voulez. C'est que ce ne sont pas des méthodes hybrides naturelles, quoi. Hein. Ce sont des plantes qui sont bombardées de manière physique, quoi, et par des rayons ionisants. Donc, ils modifient à l'intérieur de la plante complètement le code génétique qui se restructure, quoi, et ils essayent de sortir les qualités qui les intéressent, et on retombe sur la même chose, la résistance à un herbicide.
D'accord, mais parce que moi
un insecticide. Donc on se retrouve avec des plantes dans lesquelles on n'a pas introduit un gène extérieur, mais on a tellement modifié leur code génétique qu'on trouve des plantes qui sont anormales, en fait. Des plantes qui résistent à des herbicides et qui contiennent un insecticide, ce sont des plantes anormales, quoi. C'est pas, la nature n'amènerait pas ce genre de plantes, quoi. Hein.
Parce que je pensais que, moi, les variétés hybrides, c'est on forçait des plantes à se croiser pour donner une variété...
Oui, ça, c'est les hybrides à l'origine. Voilà. Ça, on en a, enfin, je veux dire, presque toutes les plantes qui sont cultivées actuellement, ce sont des hybrides. Hein,
d'accord.
Mais maintenant, ils ont rajouté donc une autre façon... Ben, eux, si vous voulez, ils ont contourné la loi transgénique parce qu'ils savent qu'elle n'est pas très, très favorable, que les consommateurs n'en veulent pas trop. Donc, ils ont contourné cette loi et maintenant, ils nous amènent des plantes, nous, ce qu'ils appellent eux-mêmes aussi, hein, les plantes mutées, voilà, qui sont pratiquement, ce sont des plantes génétiquement modifiées. Pas transgéniques, mais elles sont génétiquement modifiées. Et toujours pareil, toujours pour résister à des produits chimiques, à des produits toxiques qui, évidemment, sont vendus avec les graines.
Et ça,
c'est la même boîte qui commercialise le tout, bien sûr.
Et ça, est-ce qu'on en trouve, par exemple, moi, jardinier amateur, est-ce que je trouverais, par exemple, dans des sachets de graines, ces variétés hybrides mutées ?
Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas quelle dimension ils le vendent. Je ne crois pas que les légumes sont concernés par ce type de mutation, mais ce sont surtout les céréales qui sont concernées par ce type de mutation. Donc, on va trouver ça pour le tournesol, on trouve ça pour le colza. Alors, c'est ça qui nous inquiète cette année, c'est qu'il risque d'y avoir énormément de quantités d'hectares de colza qui vont être cultivés de ce type-là. Et on va retrouver pareil, on va retomber avec des colzas qui vont être résistants à tous les herbicides. Donc avec un gros problème de pollinisation de ces plantes-là, qui, elle, par exemple, le colza, peut se croiser, notamment avec toutes les plantes crucifères, quoi.
D'accord. Et ça voilà. Veut dire que si je mange bio aujourd'hui, j'ai pas la garantie de vraiment manger bio, quoi.
Oh ben si, parce que, enfin, ça dépend ce que vous appelez bio. Mais si vous achetez des produits bio, labellisés bio, il y a quand même, bon, nous, on est agriculteur en bio depuis 15 ans. Mmh. On a des contrôles qui sont faits plusieurs années par des organismes certifiés pour des contrôles en bio. Et normalement, si, enfin, je veux dire, les plantes bio sont quand même contrôlées de près, quoi. Hein, surtout les légumes, hein, ils sont contrôlés. En France, du moins. Hein. Alors, je sais pas ce qui se passe pour... par exemple, les légumes bio qui viennent de l'autre côté de la planète, je ne sais pas comment sont contrôlés les agriculteurs. Je ne veux pas non plus faire de procès d'intention. Hein. Ou ce que on voit dans les grandes surfaces actuellement, on trouve déjà des tomates bio qui viennent d'Espagne. Bon, là, je me demande comment ils font, quoi. Hein. Mais en principe, si on achète ces légumes chez un petit producteur bio ou dans les petits marchés, dans les marchés paysans et autres, je pense que si les gens vraiment là, ils font du bio parce qu'ils y croient, quoi. Hein. C'est pas pour, enfin, évidemment, ils gagnent leur vie, heureusement, mais ils ne font pas ça que pour l'argent. C'est aussi beaucoup de gens qui font ça parce qu'ils y croient. Donc c'est sûr que ça dépend à quelle échelle on achète, quoi. Si on achète du bio, si on va aller jusqu'au bout de la logique, eh bien, il vaut mieux s'approvisionner mais le plus près possible de chez soi, chez des gens qui font ça localement et qu'on connaît, quoi.
Et à votre avis, qu'est-ce que ça va être un peu de notre avenir en matière d'alimentation dans les 20-30 prochaines années, avec les combats que vous menez plutôt pessimiste?
Alors là, moi, j'ai un petit peu peur parce que, bon, on est des petits mouvements, je vous dis, les faucheurs, on est un petit mouvement, la Confédération Paysanne, il y a d'autres mouvements, nature, environnement, tout ça, qui poussent des agricultures propres et tout, mais on n'est quand même pas très nombreux. Hein. C'est la lutte du pot de fer contre le pot de terre, quoi. Hein. Donc il faut vraiment, bon, il faut vraiment que les gens se réveillent et refusent de consommer n'importe quoi. Et à ce moment-là, on pourra maintenir un rapport de force, mais sinon, le rouleau compresseur, il avance, quoi. Hein.
Et alors...
Voilà, mais je veux dire, il ne faut pas baisser les bras pour ça. Au contraire, moi, ça me renforce dans ma combativité. De dire que non, justement, là, on n'a plus une minute à perdre. Il faut vraiment se battre contre cette logique d'agro-industrie qui ne voit que le fric. Hein. C'est que ça, hein. Ce n'est que le fric. C'est même pas nourrir la planète. Ils prennent comme argument qu'il faut nourrir la planète. Or, aujourd'hui, avec tout ce qu'on produit, on en gaspille presque la moitié. Donc, ce n'est pas du tout un problème de production, c'est un problème de répartition. Il y a bien assez de nourriture pour tout le monde. Il suffit de la répartir correctement, quoi. Mais il faut se battre, il faut se battre. Et c'est vrai que consommer aujourd'hui, ça devient un acte citoyen.
Et si, par exemple, on veut soutenir un peu les faucheurs volontaires, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Bah déjà, soit on rejoint le mouvement des faucheurs volontaires, on regarde sur Internet, on trouve tout ce qu'il faut pour rejoindre le mouvement des faucheurs volontaires. Ou alors, surtout, on consomme autrement. On choisit de consommer, pas forcément que bio, hein, parce que bon, on trouve pas forcément tout le bio près de chez soi, mais on va dans les petits marchés, on essaye de favoriser tout ce qui est production locale, et on essaye de limiter la consommation de tous les produits industriels, quoi. On peut consommer beaucoup plus simplement, et ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher, quoi.
Un très très grand merci pour cette interview. Je souhaite vraiment que le combat contre ces OGM continue et qu'un jour on soit vraiment débarrassé de ces saloperies. Encore merci. Petite pause musicale avec OGMan du groupe La Chanson du Dimanche.
T'as vu, c'est La Chanson du Dimanche. La pêche. Hey, 1, 2, 3, 4. Tu fais de l'eau qui ne mouille pas. Tu fais des femmes qui ne meurent pas. meurent pas.
Tu fais des hommes qui ne meurent pas. Non plus tu fais des gosses qui ne pleurent pas.
Tu fais des feux qui ne brûlent pas. Tu fais des vieux qui ne sentent pas.
Tu fais des jeunes qui ne boivent pas. Tu fais quelques erreurs parfois.
Oh, oh j'ai mal, 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 mal. Oh, j'ai mal au secours. Ils ont fait des carottes. Ils s'épluchent à la main plus vite que les bananes. Oh j'ai mal, 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 j'ai mal au secours. Ils ont fait les brugnons avec du sopalin plié dans le noyau. Ils ont fait des patates familiales qui pèsent 40 kilos. Avec du ketchup dedans. Avec du ketchup dedans. Oh, oh. J'ai mal, wow. Oh, j'ai mal, wow. Oh, j'ai mal, wow. Ogeman,
tu fais des œufs en chocolat, tu fais du canard en foie gras, tu fais des phoques avec des poches, tu fais des poltons avec de la velcro.
Quoi?
Poltons avec de la velcro, c'est marrant.
Ok, hey, tu fais du porc à la cachère, des crocodiles en bandoulière.
Tu fais des requins tournevis, oh, oh. Tu fais des vaches qui font la bière.
Oh, j'ai mal, 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 mais j'ai mal au secours.
Ils ont fait des carottes qui s'épluchent à la main plus vite que des bananes.
Oh, j'ai mal, 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 mal,
moi j'ai mal au secours. Ils ont fait des brugnons avec du sopalin plié dans le noyau. Oh, ils ont fait des patates familiales qui pèsent 40 kilos. Avec du ketchup dedans.
Avec du ketchup dedans.
Wow. Oh, j'ai mal. 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 Wow.
C'est qui, disons? Ils ont fait s'accoupler une piscine avec une cantine.
Ah, j'ai pas vu. Qu'est-ce que ça a donné?
Le Club Med.
Mieux, mieux. Ils ont fait s'accoupler un perroquet avec de la grenadine.
Ouais, ça donnait quoi?
Du Ricard.
Waouh, il est encore mal. Alors, ils ont fait s'accoupler du pain avec du lait.
Avec du lait? Qu'est-ce que ça a donné?
Un pain au lait.
Ouais, évidemment.
Facile.
Ah, ils ont fait s'accoupler du coca avec du café.
Ouais, ça donnait quoi? La merde. Ah oui, d'ailleurs, si tu rajoutes dans cette merde un peu de café...
Ça donne quoi?
Du coca.
Ça donne du coca.
C'est réversible.
Allez, ils ont fait s'accoupler un tatami avec un pois chiche.
Ça donnait quoi?
Des bidouillets.
Dans la même idée, ils ont fait s'accoupler Laurent Cabrol et Dolph Lundgren.
Ça donnait quoi?
Ça donnait David Douillet aussi.
Ils ont fait s'accoupler un nain avec un connard.
Ouais, ça donnait quoi? Et d'ailleurs, ils ont fait s'accoupler Johnny et Laetitia.
Ouais, ça donnait quoi?
Rien donné.
Bah oui, ça va.
Prochaine fois.
Oh,
oh, j'ai mal. 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 Oh, allez, salut, à dimanche prochain. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Oh,
vous êtes bien sur Radio Sainte-Afrique avec votre fidèle serviteur Guillaume pour le Capitaine Potager. Mes amis, continuez à faire votre potager, c'est politique et responsable. D'ailleurs, en parlant de politique, petite rubrique politique, billet d'humeur exceptionnel pour cette émission. Mais j'étais obligé, pas le choix, face à la connerie humaine, il faut des fois donner un bon coup de latte dans les gnocchis. Vous avez remarqué qu'à l'approche des élections, on peut voir que la démocratie est très dangereuse, vous ne trouvez pas? La plus grosse faille, c'est que l'on part du postulat que chaque personne a une intelligence. Non, franchement, pour insister que Marine Le Pen et ses 500 signatures, il faut vraiment manquer d'intelligence. pour rester poli. À tous ces sadomasochistes, arrêtez la politique. Il y a d'autres moyens pour se faire dilater que de faire que d'en faire profiter tout le monde. Mais je vous en prie, arrêtez de dire des conneries. Déjà que la campagne présidentielle est merdique et que les débats restent minables, n'en rajoutez pas. Vous avez remarqué que c'était mon petit coup de gueule politique. Alors pour rester dans l'ambiance politique et pour répondre aux politiques qui tiennent vraiment à ce que Marine ait les 500 signatures, c'est le moment de mettre la musique à fond, d'aller dans le potager, de prendre un bon vieux Jack comme d'habitude et de faire une bêche d'honneur avec les berruriers noirs sur Porcherie.
On s'en fout, la jeunesse emmerde le Front National.
Yeah. pour la liberté et pour la justice. La jeunesse emmerde le Front National.
La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National.
Ah, ça fait du bien, non? Ça enlève un sacré poids, quand même. Allez, retour au potager avec le Capitaine Potager.
Hey, hey, salut les potos! J'ai eu un mois très agité. Alors, comme je vous l'ai dit le mois dernier, je suis rentré chez moi. Putain, qui je vois? Capitaine OGM assis dans mon fauteuil, près de la cheminée, en train de regarder brûler mes sachets de graines. Alors, vous me connaissez, Courtois? J'ai pris ma batte, que je laisse toujours dans l'entrée, je trouve que ça met l'ambiance quand je reçois les invités. Les animaux pissent pour marquer leur territoire, moi j'ai une bonne batte, ça impose toujours un certain respect et une marque d'allégeance. Bon bref, je casse les genoux, il faut jamais essayer de parler comme dans les films où les personnes se trouvent menacées alors que c'est eux qui ont le flingue. On frappe dans les genoux et seulement après on peut commencer à discuter. Le dialogue est directement plus courtois. Bon bref, je l'ai attaché et je l'ai mis dans ma cachette secrète. Il faisait aussi noir que dans le cul dans un opossum. Bref, l'électricité remise, attaché à une chaise, je suis en train de refaire son éducation alimentaire. 15 gélules de roquefort molle, 10 séances d'aligothérapie et matraquage de cerveau avec des films. Je lui ai expliqué la vie à ce petit merdeux. Je lui ai expliqué les hôtes utiles dans le jardin. Comme par exemple les hérissons qui se nourrissent des limaces, de chenilles, de souris, la musaraigne qui elle mange d'énormes quantités d'insectes et de limaces. La belette, non, pas la femme de Capitaine OGM, la vraie belette qui bouffe des campagnoles et des rats. La chauve-souris, Batman pour les intimes, mange aussi beaucoup d'insectes. Et encore bien d'autres, comme les mésanges, le rouge-gorge, les tourneaux, le merle, le moineau, mangent beaucoup d'insectes. Bon bref, là je le garde au chaud, mais vous inquiétez pas, je lui file de temps en temps un petit Big Mac, on n'arrête pas le sevrage d'un coup, sinon après il y a des rechutes avec des risques de complications. Allez, portez-vous bien et mettez la nique aux OGM.
Merci Capitaine Potager, nous arrivons à la dernière rubrique. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour ce mois de mars ?
Les petits travaux du Père Guillaume.
Alors pour ce mois-ci, vous avez de quoi ne pas vous ennuyer. Alors comme le mois dernier, vous pouvez surveiller les couches chaudes en ventilant et en arrosant. On peut préparer le terrain pour les semis et les plantations en pleine terre. Il ne faut pas oublier de découvrir les artichauts dès qu'il fera beau. Sinon, dans les couches chaudes ou les serres, vous pouvez faire quelques semis, comme l'aubergine, basilic, carotte, céleri rave, chicorée frisée, laitue, navet, poivron et tomate. En pleine terre, vous pouvez semer à la fin mars épinards, lentilles, persil. Dès maintenant, si le temps le permet, semez fèves, navets, oignons, pois, raidfort et engrais vert. Vous pouvez aussi planter les artichauts, placez-les à 1 mètre de distance. Les artichauts ont besoin d'un sol bien travaillé, bien riche en compost. Si vous avez une pelouse, avec un aspect disgracieux, c'est le moment de réensemencer. Merci d'avoir suivi l'émission Capitaine Potager, l'émission enragée sur Radio Sainte-Afrique. L'émission politique, potagistique, gigantissime, énormissime. Et oui, il faut bien s'envoyer des fleurs, surtout dans une émission sur le potager. Je remercie Christine Tellen pour son intervention. Je remercie toute l'équipe de Radio Sainte-Afrique pour l'enregistrement de l'émission. Nous, on se retrouve le mois prochain avec du potager et du pétage de plomb. D'ici, prenez le temps de vivre au potager. Que la force du Capitaine soit avec vous.